de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
La vie d'Ezra Weston Loomis Pond est l'une des plus tragiques et finira dans le mutisme le plus absolu. Ezra Pond en effet incarne un de ces avant-gardistes qui se laissa fasciner par le fascisme. Cet immense poète, l'un des plus importants du XXe siècle, sera l'un des seuls Américains résidant en Europe inculpé pour trahison. Arrêté, il fut interné dans un hôpital psychiatrique avant d'être renvoyé en Italie. Il est mort à Venise en 1972 et y est enterré. Il est l'auteur d'une œuvre terrible, les Cantos Pisans, donc écrit à Pise, dans des conditions inhumaines, et dont il disait « C'est l'œuvre de ma vie en vers, un long poème nouveau, vraiment long, sans fin ». Peu de vies d'écrivains sont en effet aussi extravagantes, diversifiées, écrit de lui Philippe Solers. Un visionnaire génial, un traître à sa patrie, un fou, un illuminé, un fanatique, oui, mais aussi et peut-être d'abord un artisan précis, un découvreur généreux, un érudit autodidacte sans cesse original, un révolutionnaire de la perception et du langage, un créateur et un animateur d'une partie essentielle de la littérature et de l'art de ce temps chaotique. Et Philippe Solers poursuit avec la question « Peut-on préférer à un grand artiste qui pense mal, un médiocre fonctionnaire des lettres qui pense bien ?» Cela se voit tous les jours, et pourtant la terre tourne. Peu d'hommes, en tout cas, connaissaient l'œuvre de Pond, aussi bien que l'écrivain et éditeur Dominique de Roux. En 1973, il dressait, avec son habituelle passion, forte de sa belle intelligence, un bouleversant portrait du poète maudit.
Aujourd'hui, portrait d'Ezra Pound avec Dominique de Roux, intervieweur Alain Ponto. Dominique de Roux, animateur des Cahiers de Lerne et de la collection 10-18, est l'auteur de maints ouvrages dont La mort de Louis-Ferdinand Céline, L'écriture de Charles de Gaulle, Gombrowicz, Contre le servant Schreiber et Immédiatement.
Monsieur Dominique de Roux, vous avez, on le sait, conçu, dirigé, publié les deux très beaux cahiers de Lerne consacrés à Ezra Pound. Est-ce qu'on pourrait vous demander tout d'abord de refaire pour nous un peu l'itinéraire biographique de Pound, nous le situer d'abord, si vous voulez, dans sa vie même, avant de le faire dans son œuvre. D'où venait-il, comment a-t-il vécu, quel homme était-il?
Pound est un Américain du Middle West, né à Idaho, dans une petite ville, d'une famille de Quakers protestants. Il quitte très vite l'Amérique après un passage à l'université où déjà il rompt, si vous voulez, avec les formes, ce qui fait qu'abritant une jeune femme dans sa chambre, parce que cette jeune femme n'avait pas eu, je crois, un bulletin pour rentrer à l'université, il en est expulsé, et c'est ainsi qu'il arrive à Londres, et que sa passion pour la poésie et pour le renouvellement des formes commence. Il rencontre d'abord Yeats, le grand poète irlandais vieillissant. Il lui reprend la main et permet à Yeats non seulement de renouveler sa poésie sur le tard, mais en même temps de poursuivre son œuvre. C'est à ce moment-là qu'il rencontre T.S. Eliot, le poète anglais d'origine américaine, que celui-ci est en train d'écrire The Westland, qu'il a entre les mains le manuscrit de Westland, qu'il conseille T.S. Eliot, et qu'il l'oblige à des corrections qui font que ce livre, ce grand livre de poèmes, apparaît encore aujourd'hui comme un chef-d'œuvre. Donc, avant de s'occuper de sa propre poésie, de son œuvre à lui, Pound apparaît comme un extraordinaire animateur, un homme à l'écoute de son temps, et qui sent profondément que les formes du XIXe siècle, il faut les faire tomber comme des écorces mortes. Il crée, Alors à Londres, le vorticisme, avec le peintre, poète, polémiste Wyndham Lewis, où l'on retrouve des romanciers comme Ford Madox Ford, le vorticisme étant une sorte de volonté de reprendre à travers la fragmentation, la poésie, l'émotion, immédiatement, de la transposer immédiatement, ce qui d'ailleurs nous donne bien la sensibilité de notre monde actuel, notre monde si fragmenté par les objets. Et quand il voit que Londres ne répond plus à ce qu'il appelle la poésie, à ce qu'il appelle la grande littérature, il quitte Londres et va s'installer à Paris. Et Pound apparaît à ce moment-là comme le grand animateur des années 20, 1920, ce qu'on appelle la génération perdue. Et Pound est non seulement le chef d'orchestre, au sens qu'il touche à tout, de Hemingway, qu'il conseille, de Joyce, qu'il fait éditer, de Juna Barnes, dont il publie le premier livre, Knightwood.
Il a rencontré Aragon aussi.
Mais également, si vous voulez, du surréalisme, qu'il aide par la bande, parce que Pound avait le génie de taper les personnes riches, les personnes mondaines. Et il va même jusqu'à fournir de la drogue à un poète dont on a oublié le nom, mais qui ne pouvait écrire que par ce moyen, tellement, si vous voulez, sa passion des autres est grande. Mm-hmm. Et on le voit se lier avec Paul Morand, avec Sandrars, avec Aragon, comme nous l'avons dit, et avec Cocteau, bien entendu, et surtout aussi avec le sculpteur Brancusi. Et Pound est également l'instigateur, on peut dire le précurseur de la musique concrète, la musique que l'on joue aujourd'hui, lorsqu'il soutient George Antheil, l'auteur des pianos mécaniques, et que la représentation à l'Odéon fait un véritable scandale.
Il a découvert Scriabine, ne sait où.
Il a fait découvrir, vous avez raison, Scriabine à la France, et nous sommes dans les années 30, Pound se rend compte que la France, elle aussi, est en train de s'endormir, et il se dit, avec juste raison, dès les années 30, que Paris n'est plus la capitale du monde, et à ce moment-là, apparaît l'itinéraire, comme on peut dire, tragique de Pound, puisque Pound quitte Paris pour s'installer à Rapallo, où l'Italie est en plein fascisme sous le régime de Mussolini.
Et il a, me disiez-vous, une rencontre assez originale, une seule, je crois, avec Mussolini.
Alors oui, je crois qu'il faut un tout petit peu revenir en arrière, car à ce moment-là, Pound est en train de composer son œuvre, et que Pound, justement, à vivre avec les écrivains, se rend compte que le monde littéraire est de plus en plus écrasé par l'argent, par les affaires, par les trusts, et imaginez qu'en vain il le percevait déjà, et qu'il est hanté par ce qu'il appelle l'usure. Et il croit voir en Mussolini l'homme, n'est-ce pas, qui va redonner, si vous voulez, ses lettres flamboyantes à la poésie, grâce, si vous voulez, à l'État, à un État socialiste.
Il participe, en somme, à cette floraison, à cette illusion du début du fascisme, conçu comme une résurrection culturelle et tradition. Et est-ce que je peux vous demander de nous lire, justement, ce poème avec l'usure, qui est en effet un texte assez révélateur et très beau.
Alors ce texte est admirable, et avant de vous lire ce poème, je voudrais vous rappeler cette petite rencontre qu'il a faite avec Mussolini, car il avait cru trouver bon dans sa hantise financière et dans sa maladresse, si vous voulez, de récupérer les vieilles théories financières de gens un peu écervelés ou un peu à côté, un peu agités. Il avait dit à Mussolini qu'il fallait planter l'Italie de soja, parce que le soja étant une plante riche, eh bien tous les Italiens auraient de quoi manger. Et avant de se lancer dans son poème, il écrit cette lettre où il dit « L'usure est le cancer du monde, seul le bistouri du fascisme peut l'extirper de la vie des nations. Oui, » Et c'est ainsi que dans les Cantos Pisans, qu'il écrit à ce moment-là, qui est le début des Cantos, il écrit « Avec l'usure, nul homme n'a maison de bonne pierre, chacune taillée puis ajustée, afin que le décor puisse orner la façade. Avec l'usure, nul ne possède un paradis peint au mur de l'église, ni la Vierge qui reçoit le message, une auréole s'élevant de l'incision. Avec l'usure, nul homme ne voit Gonzague, ses héritiers, ses concubines. Un tableau n'est plus fait pour durer, pour vivre avec, mais pour se vendre, et se vendre vite avec l'usure, péché contre nature. Ton pain sera fait de chiffon, toujours plus ton pain sera sec comme du papier. Sans le blé des montagnes, sans la forte farine, avec l'usure le trait s'empâte. Avec l'usure les contours s'estompent, et nul homme sur terre ne trouve sa place. Le tailleur de pierre et privé de ses pierres. Le tisserand de son métier, avec l'usure, la laine ne se vend plus. Avec l'usure, les moutons n'apportent plus de gain. L'usure est une peste. L'usure émousse l'aiguille dans la main de la servante, éteint le talent de la fileuse. Pietro Lombardo ne vient pas de l'usure. Duccio ne vient pas de l'usure. Ni Pierre della Francesca, ni de l'usure Juan Bellin, ni peinte la Calumnia. Ni de l'usure Angelico, ni Ambrogio prédice, ni l'église de Pierre Taillé signée Adamo me fecit, ni de l'usure Saint Trophime, ni de l'usure Saint Hilaire. L'usure a fait rouiller le ciseau, rouiller l'art et l'artisan, ronger la trame sur le métier. Nul ne sait plus y mêler le fil d'or. Azur est dévoré par ce cancer. Cramoisi n'est plus brodé. Émeraude ne trouve plus de memling. L'usure frappe l'enfant dans le ventre de sa mère. Elle frappe le jeune homme qui fait sa cour. Le paralyse dans la couche nuptiale. L'usure s'étend entre le mari et sa jeune épousée. Contra naturam, ils ont à mener des putains à Eleusis. Des cadavres prennent place au banquet. Sur mandement de l'usure.
Oui, on comprend que Ezra Pound ait pu être considéré comme l'un des plus grands poètes contemporains. Est-ce que c'est cette usure sur le plan culturel qu'il constatait dans l'état de la civilisation littéraire, autant à Londres qu'à Paris, et qu'il a fait fuir, au fond?
Je pense que c'est ça. Civilisation
à bout de souffle,
un peu pour lui. Et je pense cette hantise de la guerre, n'est-ce pas, quand il parle à la radio Mussolini, de ces discours qu'on appelle des discours fascistes. En définitive, ces discours sont simplement des textes, n'est-ce pas, sur Joyce, des textes sur Cummings. Et, par exemple, il en vient à parler subitement, en 1943, entre une insulte à Roosevelt qu'il haïssait, puisqu'il l'appelait ventre de porc. Il parle de Céline soudain. Il dit « Pas de cheveux sur la langue du gars. La voix de la France, comme lorsque la France était jeune. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que Sam Putman qui soit capable de trouver une manière de dire en langage des États-Unis ce que Céline leur a dit déjà en 1932 de la prochaine guerre. Ce n'est pas le français de Rabelais qui a ressuscité, ce n'est pas seulement le français parlé, le français des mecs qui est enfin couché par écrit, c'est l'écrit qui est vivant. La sale vieille sirène fatale se relevant de la vase de la Seine est bourriffée, ivre, peu ragoûtante, dit à l'auteur d'aller se faire foutre, elle l'injurie, on ne se perd pas en politesse avec Céline.
C'est ça.
Donc, vous voyez, le genre de discours, et à ce moment-là, on aboutit en 1944 à la catastrophe pandienne, c'est-à-dire son arrestation, à Rapallo, et comme il est le traître américain, le traître de la poésie anglo-saxonne, on l'enferme, on le confie à la section des déserteurs et des violeurs. On le remet, n'est-ce pas, à la section en plus des noirs américains, pour bien montrer la différence. Mm-hmm. Et c'est là où on l'enferme pendant 6 mois sur la place de Pise, dans une cage de fer, sans toit, en plein soleil, avec une couverture. Et c'est là qu'il écrit les extraordinaires Cantos Pisans, qui sont en même temps pour lui, à travers une technique très avancée de la fragmentation, un rappel de l'ordre du monde, un rappel de l'histoire. Il met l'histoire en stèle et il commence sur la pendaison de Mussolini.
Et il était déjà à cette époque d'un certain âge, puisque je pense qu'il a autour de 85
il
ans
avait,
aujourd'hui.
Il avait 64
oui,
ans.
Oui, oui, oui.
Et il n'avait avec lui qu'une Bible, n'est-ce pas, et puis un morceau de papier et un crayon. Et alors ce cantos est admirable, parce que d'abord c'est un cantos de remords. Il a le remords. Pound est un homme qui a été, en effet, on peut dire vaniteux. Il a cru que la poésie allait changer le monde. Et en définitive, c'est un échec. Et c'est à ce moment-là qu'il fait, sous cette cage, cette grande confession où il dit « J'arrache ma vanité ».
Il conçoit à la fin de la guerre les errements du fascisme.
Alors,
il remet ses idées en question sur le plan social, par exemple.
Il ne renie pas le fascisme, il ne l'a jamais renié, il ne veut plus en parler, n'est-ce pas? À ce moment-là, la poésie du monde entier intervient pour lui, Ungaretti, T.S. Eliot, bien entendu, et il est ramené à Washington, et à Washington, on évite, n'est-ce pas, de le condamner à pendaison, et il est transféré à Sainte-Élisabeth, asile psychiatrique, où il passera 15 ans. Et il sera libéré par, curieusement, par Eisenhower.
Oui, c'est une vie tragique. Est-ce que vous pourriez nous parler de ses amis, de ceux qui étaient les plus proches et qui apparaissent comme des gens extrêmement, des écrivains aussi extrêmement différents quand on passe de Joyce à Eliot à Hemingway? Est-ce qu'il a été un peu un commun dénominateur pour ces gens-là? Est-ce que la correspondance avec Joyce, par exemple, est-ce qu'elle a un intérêt particulier?
La correspondance de Pound, toute la correspondance de Pound a un intérêt, alors que la correspondance de Joyce en a peu, parce que Joyce parle sans cesse d'argent. Mm-hmm. Mais Pound a une correspondance phénoménale avec le monde entier, et toujours son côté professeur, son côté pédagogue, n'est-ce pas? Il est avec Joyce quand Joyce écrit Ulysse, il est contre Joyce quand Joyce écrit Finnegan's Wake, et il lui écrit, mon cher Joyce, Finnegan's Wake, c'est la décadence bourgeoise. Il a tort, il n'a pas tort, c'est pour vous dire qu'il se mêle de tout. Oui. Il entretient une correspondance avec le monde entier, il écrit au Japon, il fait découvrir, justement, encore Fenollosa, l'homme des idéogrammes, il introduit le théâtre No, il traduit Catulle, il traduit Rimbaud en américain, en anglais, et à Sainte-Élisabeth, son activité d'éditeur, de poète, d'animateur ne cessera jamais jusqu'au jour où, libéré, justement, par ce gouvernement, il renie l'Amérique. Il dit l'Amérique, c'est la fin du monde, c'est la fin, c'est vraiment l'apocalypse, je quitte l'Amérique. Et il va s'installer dans la patrie, n'est-ce pas, de Dante, dont il a tant parlé, et de Cavalcanti, qu'il a défendu contre Dante, enfin qu'il a fait ressortir. Mm-hmm. Et il s'installe à Rapallo, et lorsque la presse, car il est très populaire en Italie, vient l'accueillir, tous les poètes sont là, Montale, Ungaretti, qu'on organise une conférence de presse, il déchire son discours, et c'est là où il dit la phrase célèbre, je sais que je ne sais rien, et depuis, Pound ne dit plus un mot, il ne parle plus.
Là, il y a cette encyclopédiste de la culture universelle qui aboutit à ça, voilà, à la négation de tout ce qu'il peut savoir, et au silence, en fait.
Exactement, au silence, et actuellement, Pound vit à Rapallo, dans une petite maison, très modeste, entre Venise et Rapallo, où il a une autre petite maison à Venise, et c'est un homme qui est là, extraordinaire personnage. Cet homme qui a tout vu, qui a tout connu, qui a tout lu, et qui soudain ne veut plus être que quelqu'un d'anonyme.
Est-ce qu'on pourrait parler un peu, remonter si vous voulez, à 1910? Je pense que l'esprit des littératures romanes, qui est une œuvre assez fascinante, date de 1910 avec des commentaires de 1929. Les littératures romanes, est-ce que le mot d'esprit des littératures vous paraît convenir à ce genre de travail qui n'est pas au fond l'exégèse universitaire sur un certain nombre d'auteurs? C'est l'esprit qui l'en cherche, enfin le mot roman désignant bien sûr les langues dérivées du latin, puis leur littérature écrite à travers Camoens, Villon, Lope de Vega, etc. C'est quoi pour vous ce livre, l'esprit des littératures romanes?
Mais l'esprit des littératures romanes fait partie, si vous voulez, de ce génie pandien, c'est-à-dire d'avoir remis la culture, en une certaine culture, en circulation. Pound a toujours été omnubilé par les guides, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Pound est un admirable professeur. Il dit, inflation du livre, il faut ressortir ce qui est essentiel, il faut ressortir ce qui a été mal lu. Les troubadours en France sont absolument inconnus, sauf peut-être par des petits clans de la littérature occitane. Faisons-le ressortir et montrons à quel point les troubadours, les cours d'amour, la forme du troubadour est importante. Propers, dit-il, est un auteur latin qui a été méprisé, que toute la Sorbonne, n'est-ce pas, a camouflé parce que ça paraissait décousu. Il dit, aujourd'hui nous vivons le temps du décousu, car c'est vrai, de la fragmentation. Il remet Propers en circulation. Donc c'est ça qui anime toujours Pound.
Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est vraiment trouvé, comme on l'a prétendu, grâce à la littérature française? Sur le plan poétique, peut-être, on dit qu'il s'est trouvé à travers des études de gens comme Gautier, comme Flaubert, comme Laforgue, et qu'il a révélé même les littératures, les troubadours aux Français, mais en se découvrant lui-même dans cette littérature française, qui était quand même loin de ses sources, ou de sa langue maternelle, ou de sa culture propre.
Absolument, je pense que Pound, c'est là où cette espèce de personnage double, chaque fois qu'il voulait enseigner aux autres, chaque fois qu'il tenait le bras à la main de quelqu'un, lui-même, n'est-ce pas, ne faisait qu'augmenter ou qu'améliorer, qu'expérimenter son œuvre. Il est certain qu'il est sorti de... Il a bien lu Laforgue, Corbière, et de là, si vous voulez, en le passant à son propre tamis, à ses propres lectures anglo-saxonnes, à sa propre culture universelle, je vous dis, qui va de Frobenius, l'ethnologue, en passant par Cavalcanti. Il a fait les cantos, il a fait l'œuvre paondienne qui aujourd'hui, n'est-ce pas, règne sur la nouvelle poésie, sur la jeune poésie, que ce soit en Italie, en Allemagne et en France.
Il y a des études effectivement très séduisantes, parce que nouvelles sur, je pense au théâtre, sur à propos de Lope de Vega, ou cette espèce de comparaison qui fait un peu entre Dante et Villon, où Villon est un homme pour lui qui ne part que de sa propre expérience par rapport au grand art de Dante. Est-ce que c'était des aperçus nouveaux? Est-ce que ça a eu un impact, ce livre-là, sur la critique universitaire française, disons?
Écoutez, d'abord en France, je peux vous dire qu'il n'a jamais été publié. Et il a fallu, oui, si vous voulez, qu'un jeune éditeur comme moi découvre un jour Pound dans une librairie à Londres pour qu'en 66, je le publie avec les moyens du bord, alors que tous les éditeurs l'avaient refusé, parce que ça leur paraissait illisible, alors que Pound aujourd'hui est lu justement par les gens de 20 ans. C'est pour vous dire qu'à l'époque, l'esprit cartésien, l'esprit NRF, n'est-ce pas, l'horrible esprit de boutique français, le polan du coin, ne pouvait pas supporter Pound et sa culture moderne, sa science actuelle.
Oui, on comprend ça d'une certaine façon par rapport à l'esprit français, mais en même temps, on dit qu'il a marqué, par exemple, la génération d'Hemingway, qu'il a eu une énorme influence alors sur la littérature anglaise et américaine.
Absolument. Oui. Enfin, Eliot, je vous dis, pour parler de grands noms, Yeats, Eliot, Joyce.
Jusqu'à Hemingway,
dont il a, je crois, relu le premier roman.
Et pour en venir aux deux cahiers, en dehors du fait que vous l'avez découvert et amené au public français, en quelque sorte, ces deux cahiers de Laerne étaient composés de quelle façon et de quoi?
Alors écoutez, ces cahiers de Laerne sont composés tels que chaque fois nous voulons révéler un auteur, n'est-ce pas? C'est-à-dire le chemin des précurseurs. Nous réunissons dans des cahiers qui sont importants, puisque chacun a 500 pages, une sorte de témoignage, de texte de contradiction, pour et contre, afin que le visage du poète, son œuvre dans tous ses aspects multiples comme celui de Pound, apparaisse avec ses contradictions. C'est-à-dire, ce n'est pas un hommage, c'est une sorte de brassée de grands documents critiques, de correspondances, de lettres, de contradictions telles que la vie que nous vivons chacun de nous chaque jour est faite de contradictions, pour dire voilà ce qu'était Pound, à vous maintenant de trouver votre propre chemin à l'intérieur de ces pages.
Comme le très beau cahier que vous aviez fait sur René Char également. Mais est-ce qu'il y a des aspects particuliers? Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée, même rapide, du cheminement de ces cahiers? Quels sont les aspects principaux que vous dégagiez, les aspects de Pound ces cahiers de Laerne? Il y avait un peu tous les aspects, je pense, du musicologue.
Non, ce que nous essayons de dégager de cet aspect, c'est surtout, si vous voulez, le côté discontinu de sa poésie, la manière dont, si vous voulez, il va au plus court dans une époque aussi fournie en livres, aussi fournie par l'informatique en toutes sortes de choses, la manière dont, à travers l'oreille, un homme comme Pound sélectionne. C'est-à-dire, pour nous, Pound est important dans sa forme par le décousu, par les bonds qu'il fait d'un thème à un autre, relié, n'est-ce pas, simplement par par l'émotion ou par la manière dont on sent la vie, et en même temps, le côté sélection, c'est-à-dire aller aux choses essentielles.
Et est-ce qu'on trouve, est-ce qu'il réussit une synthèse par ses idées ou par sa personnalité, de cette immense somme de connaissances culturelles qui vont de la Chine à Dante, à Villon, à la littérature américaine? Est-ce qu'il fait une synthèse, ou est-ce que, comme vous disiez tout à l'heure, il ne se trouve pas un petit peu atomisé lui-même à la fin de sa vie par cette immense somme de connaissances?
Je pense, si vous voulez, que les points qu'il a touchés, on ne peut pas faire une synthèse de Pound. Car, je vous dis, il a toujours lutté contre la forme qu'il était en train de monter, de créer. Mais je pense qu'à travers lui, eh bien, on peut relire des textes. Je pense à Properce, dont nous avons publié un long fragment ici. Eh bien, la lecture de Properce ou la lecture de Catulle nous permet, par exemple, de découvrir un Rimbaud différent. Non pas un Rimbaud romantique allant rechercher de l'or dans le Harare, mais un Rimbaud, si vous voulez, qui va au plus court, n'est-ce pas, au plus court de la sensibilité actuelle. je pense, et ce dont de l'œuvre de Pound, c'est cette manière de travailler qui est importante.
Et finalement, avec cet immense travail d'animateur, de groupe, d'œuvres, de grandes œuvres, il n'a pu consacrer qu'à peu près le cinquième de son temps, dit-on, à la poésie. Est-ce que c'est une œuvre abondante, tout de même, son œuvre poétique?
Alors, l'œuvre poétique est énorme, elle est énorme. Il y a les poèmes de jeunesse, qui sont des poèmes classiques, Katai, et puis il y a l'œuvre majeure, qui sont les cantos, qu'il a poursuivi toute sa vie, et dont le dernier fragment date, je crois ne pas me tromper en disant qu'il date de 1969.
Est-ce qu'il y a des équivalents dans la littérature contemporaine de cet esprit encyclopédiste, de cette curiosité et en même temps de ce grand lyrisme?
En France, vous voulez dire?
Dans le monde, en général, qui ont cette immense curiosité en même temps ces résultats littéraires.
Je pense que Joyce a suivi le même chemin en passant d'Ulysse, La journée d'un homme, pendant 24 heures, et en terminant justement dans le Finnegan's Wake, c'est-à-dire que les mots deviennent la rivière qui emporte lui-même l'écrivain.
Quand vous parliez de sa théorie mise au point à Londres, de cette immédiateté de l'émotion, est-ce que vous pensez qu'il a joué un rôle dans la conception de Joyce pour Ulysse, cette espèce de chaos d'impressions télescopées dans la conscience, cette épopée intellectuelle, si vous voulez? Est-ce que vous pensez qu'il a eu une influence sur lui à titre d'ami? Vous disiez qu'il était très proche des gens lorsqu'il créait une grande œuvre. Qu'il a pu alimenter lui-même ses œuvres d'une partie de sa substance?
Moi, je pense qu'il a influencé Joyce, dans la mesure où, d'abord, Pound animait deux revues très importantes que lisait Joyce, qui étaient The Egoist et Blast, et qu'en plus, il avait cette correspondance démentielle avec tout le monde. Il faut lire la correspondance de Pound, qui fait partie intrinsèquement de sa manière de vouloir, n'est-ce pas, manipuler les gens, peut-être quelquefois, mais de vouloir, non pas d'ailleurs tellement les influencer, mais de leur dire « J'ai plus de distance, moi, vis-à-vis de votre œuvre que vous, alors voici ce que je pense ». D'où la correspondance de Pound, qui est démentielle dans la mesure où c'est une correspondance de rupture. C'est-à-dire qu'il va au plus vite, il tape à la machine ses lettres, et c'est toujours du style télégraphique. Pour que l'impact sur la personne qui le lit, sur le Joyce, n'est-ce pas, à moitié aveugle, eh bien, qu'il ne perde pas son temps à s'embrouiller dans une lettre rhétorique, mais que les mots, les conseils lui sautent aux yeux.
Il y a un autre aspect de son œuvre aussi, peut-être moins connu, c'est-à-dire l'ABC de la lecture ou comment lire. Et ça, c'est quel type d'ouvrage dans son œuvre?
Alors là, ça fait partie des ouvrages qu'on pourrait appeler des ouvrages pédagogiques. Pound est un homme qui arrivait d'une cité idéale, il a cru la trouver en Italie. Il arrivait d'une université idéale, et il en a toujours été chassé. Mais je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la beat génération, l'underground américain, n'est-ce pas, utilise les méthodes poundiennes quant à la disparition dans le sous-sol et quant à la subversion.
Alors, au terme de ce portrait, si on vous demandait de résumer un peu globalement, c'est quoi pour vous, c'est qui pour vous Ezra Pound? Est-ce que c'est un érudit, un poète, un encyclopédiste d'une culture universelle, un animateur prodigieux? Est-ce que c'est un voyant? Est-ce que c'est qui? Pour le définir en quelques mots, ce qui est d'ailleurs impossible. Mais quelle est l'image ou l'héritage ou le message principal de cette œuvre et de cet homme?
Si vous voulez, moi je pense que c'est un homme dont la poésie, dont toute l'œuvre, nous montre qu'aujourd'hui, un, il ne faut se laisser emprisonner par aucune forme, ne succomber sous aucune idéologie, n'est-ce pas, et véhiculer la beauté et les idées par tous les moyens, n'est-ce pas, entre nous, d'une manière internationale, sans se laisser figer par quoi que ce soit. Je crois que c'est son message essentiel, cette extraordinaire liberté du poète, n'est-ce pas, du poète errant, n'est-ce pas, du poète qui n'appartient à personne. Comme aujourd'hui, aucun peuple ne devrait appartenir fondamentalement à aucun gouvernement. Mais avant de terminer, je voudrais justement vous montrer que dans le message poundien, il y a également cette grande humilité, quand dans la fin des cantos, il dit « Je suis au bout de mes forces, j'ai eu pitié des autres, probablement pas assez. » Le paradis n'est pas artificiel, l'enfer non plus. Les larmes que j'ai créées m'inondent. Tard, très tard, je t'ai connu la tristesse.
Oui, c'est admirable. Vous disiez tout à l'heure, je crois, cet homme que la volonté de savoir a rendu fou.
Cette volonté de savoir a rendu fou, mais en même temps, cet homme qui a eu conscience, n'est-ce pas, que le rôle de l'écrivain en 1972, n'était plus un rôle de monsieur à bonnet ou de monsieur à stylo se regardant écrire, mais que l'écrivain, comme tout le monde, doit rentrer dans le rang, n'est-ce pas ? Dans le rang du grand anonyme, de la grande voix anonyme. Et je pense que Pound, dans un poème, rappelle justement que... Il rappelle la fameuse nuit où Tibère, sur sa barque, n'est-ce pas, a entendu « Ahoy, ahoy, le grand Pan est mort ». Et la seule fois où j'ai pu tirer une parole de Pound, c'était en 68 à Paris, pendant les événements de mai. Je l'avais invité à dîner avec Henri Michaud et Ungaretti. Il avait refusé de parler à Michaud, et Michaud était fort contrit, n'est-ce pas, de voir Pound et que Pound ne lui adressait pas la parole. Et à un moment, j'étais un peu gêné de ce silence, et c'est très gênant quand personne ne parle. Et dans la pièce à côté, je l'ai pris et je lui ai dit « Ezra, que pensez-vous de 68 pour meubler la conversation ?» Et il m'a dit seule parole, alors que je le vois chaque année, il m'a dit « Le grand Pan revient ».
C'était Entretien. Vous venez d'entendre Dominique Deroux dans une interview de Pierre Jeancard. Réalisateur Fernand Ouellette, production Radio-Canada.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 8 septembre 1973. Vous pouvez la réécouter et la télécharger en vous rendant sur la page des nuits via franceculture.fr. Thank you.